faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice.
Opposer justice et police comme le font certains en permanence, c'est extraordinairement grave pour notre pacte républicain.
Je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer. Il y a la loi, il y a des amendes, mais pas la peine de mort.
Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe.
Moi, pour moi, c'est le genre de cas où, fou ou pas fou, elle doit être en prison. Elle ne doit pas être soignée.
Présumée coupable, l'expression, elle vous choque ?
Ah, complètement. Elle me choque totalement. Nous vivons dans un état de droit, ce qui nous permet de vivre en paix.
Plaidoirie, l'émission de Police Justice de Radio Campus Paris, un samedi par mois sur le 93.9.
Dans une interview accordée au journal Nice Matin en 2021, le garde des Sceaux d'alors, Éric Dupond-Moretti, déclarait que, je cite, « la justice est réparée ». Pour justifier son constat, il évoquait un budget en hausse de 8% cette année-là. Et quelques jours plus tard, secousse dans le monde de la justice une tribune qu'on surnommera bientôt la tribune des 3000 en raison de son nombre de signataires, est publiée dans le journal du Monde. Juges, substituts, greffiers, tous y dénoncent une approche gestionnaire de la justice. Une tribune écrite quelques mois après la mort d'une de leurs collègues, Charlotte, qui s'est suicidée, vraisemblablement épuisée, notamment par ses conditions de travail. Audience surchargée, délai d'attente qui explose, magistrat débordé. Bref, une justice bien loin de celle évoquée par Éric Dupond-Moretti. Alors, 3 ans plus tard, où en est-on ? Quelque chose a-t-il changé dans les tribunaux français ? La justice est-elle toujours maltraitante, comme le soulignait la tribune ? C'est à ces épineuses questions que nous tenterons de répondre.
Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir ici deux invités. D'abord, Stéphanie Caprin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc juge d'instruction et également vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Également avec nous cette fois-ci à distance, par téléphone, Delphine Dejoie-Roussel, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes donc avocate, mais également bâtonnière du barreau de Vannes. Peut-être pour commencer cette émission, une question assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, on peut parler d'une justice réparée, en reprenant donc les mots d'Éric Dupond-Moretti, Stéphanie Caprin ?
Oui, alors c'est effectivement un terme qui nous a tous interpellés au moment où le ministre de la Justice a dit « justice réparée » parce que c'est pas du tout le ressenti des professionnels au quotidien. Je pense que madame la bâtonnière le confirmera. 3 ans après, il y a eu quelques engagements, un budget en hausse, des promesses de recrutement, mais encore, à l'heure où je vous parle, dans le quotidien, sur le terrain, dans les tribunaux, c'est encore loin d'être réparé. Je pense qu'on pourra le développer un peu après.
Maître Dejoie-Roussel, est-ce que c'est aussi votre constat ?
Oui, tout à fait. Malheureusement, on aurait souhaité une justice réparée, efficiente, efficace. C'est pas faute pour les magistrats en poste de travailler durement, mais malheureusement, le manque de magistrats se fait toujours sentir comme le manque de greffiers.
Eh bien, on va pouvoir développer du coup ce sujet pendant une demi-heure avec vous. Alors d'abord, essayer de comprendre ce manque de moyens, comment il se caractérise au quotidien, dans votre quotidien, à la fois de juge d'instruction, donc et d'avocat et de bâtonnière. De quoi parle-t-on ? Est-ce que c'est un manque de personnel d'abord, Stéphanie Caprin ?
Oui, alors si vous me permettez juste deux mots pour préciser dans quel cadre aujourd'hui je peux m'exprimer. Donc c'est surtout ma qualité de vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, parce que je pense que tout le monde m'a un peu remarqué, les magistrats ne sont pas les meilleurs communicants qui existent. C'est pas forcément évident pour les magistrats de terrain au quotidien de s'exprimer, bah déjà parce que on est un corps assez taisant. On nous apprend, on nous éduque au secret de l'instruction, au secret de l'enquête, au secret des délibérés. Donc communiquer, parler de notre quotidien n'est pas forcément quelque chose d'assez facile pour nous. Et c'est ce que les syndicats essayent de faire, notamment l'Union syndicale des magistrats. En deux mots, c'est le premier syndicat des magistrats judiciaires. Donc en termes de représentativité, on a eu 63% de collègues qui nous ont fait confiance aux dernières élections représentatives. C'est un syndicat apolitique, hein, on y tient. C'est-à-dire qu'on ne défend pas d'idées politiques rattachées à un parti, etc. Et on œuvre pour une justice qui est indépendante, humaine, efficace, c'est-à-dire en un mot, de qualité. Donc avec cette casquette syndicale, je peux vous parler un peu du quotidien que j'ai moi-même vécu. J'ai exercé des fonctions donc, de juge d'instruction, de juge des enfants notamment. Et aussi, bien sûr, je peux porter la parole de mes collègues que je représente aujourd'hui. Et pour vous donner des exemples concrets, hein, moi, juge d'instruction à Pontoise, c'est 135 dossiers d'instruction. 135 dossiers d'instruction ramenés au nombre de jours travaillés. Ça veut dire que je peux consacrer moins de 1,5 jour par dossier d'instruction chaque année. Et un dossier d'instruction, c'est des dossiers criminels, c'est-à-dire ça va être, les mots sont durs, hein, excusez-moi, des viols, des meurtres, des tentatives de meurtre, des trafics d'armes, des gros trafics de stupéfiants internationaux, etc. Donc imaginez 1,5 jour par an par dossier. Ça fait que les dossiers mettent des années à sortir et d'être potentiellement jugés. Ça veut dire que des victimes attendent des années avant d'avoir leur procès qui se tient. Des personnes peuvent attendre des années en détention avant d'être jugées. Donc ça, c'est un exemple concret, par exemple, du manque de moyens. Le seuil fixé pour travailler correctement pour un juge d'instruction, c'est 72 dossiers. Hein. C'est un seuil qui a été admis et discuté. Donc vous imaginez, si vous avez le double, forcément, bah, on va beaucoup moins vite. Les délais sont très longs.
Et justement, sur les délais, Delphine de Joie-Roussel, vous avez publié une tribune il y a quelques semaines dans le Télégramme, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, où vous soulignez une chose, par exemple, pour le barreau de Vannes. Vous évoquiez notamment les affaires familiales, en précisant que les audiences aux affaires familiales vont être divisées donc, au barreau de Vannes par 3 en janvier, contre 8 à 10 par mois. Est-ce que c'est ça aussi la question du manque de moyens, vous, que vous vivez au quotidien en tant que bâtonnière de Vannes, du barreau de Vannes, pardon?
Oui, c'est en cette qualité effectivement que je m'exprime aussi aujourd'hui pour relayer les difficultés rencontrées par nos justiciables, l'accès à la justice et les délais qui s'allongent au fil du temps, la diminution des audiences et la conséquence pour ce qui concerne Vannes de 2 départs en retraite, 2 départs en retraite non remplacés. Une des juges aux affaires familiales part le 31 décembre, l'autre est partie fin septembre. Donc au tribunal judiciaire, le président a fait appel à une juge, une vice-présidente qui gérait le tribunal de Vannes, qui a basculé partiellement aujourd'hui au poste de juge aux affaires familiales, mais qui continue en parallèle à traiter les dossiers en matière correctionnelle, ce qui fait qu'elle n'est pas à 100% de son temps aujourd'hui. Donc on a déjà eu une diminution des audiences sur octobre, novembre, décembre pour ce cabinet-là. Et effectivement, à partir de janvier, on va avoir une diminution beaucoup plus importante du nombre d'audiences, puisque là, on a le deuxième magistrat qui part en retraite fin décembre et qui n'est pour le coup absolument pas remplacé. Donc on perd un poste complet de juge aux affaires familiales, sachant que la magistrate qui prend donc le poste d'affaires familiales pour l'autre cabinet, eh bien, délaisse de ce fait ses autres précédentes fonctions, à savoir la présidence d'un certain nombre d'audiences correctionnelles, mais également d'autres missions qu'elle avait. Donc ça va poser difficulté dans l'organisation générale et nécessairement, alors en matière de divorce, on perd effectivement à peu près la moitié, voire à peu près le tiers des audiences. Maintenant, on va avoir des audiences qui vont être fixées pour ce qu'on appelle les procédures hors divorce, c'est-à-dire les gens, les concubins, les partenaires pacsés qui ne sont donc pas mariés mais qui, se séparant, ont nécessité de saisir la justice parce qu'il y a un désaccord sur l'exercice de l'autorité parentale ou plutôt ses modalités. Et là, les stocks de dossiers continuent dans les bureaux des greffiers à augmenter parce que il y a eu un arrêt total pendant quelques temps de fixation d'audience. Donc ça va reprendre au fur et à mesure. On est en attente des dossiers de fixation. Et là, par exemple, je crois que la greffière, il y a une dizaine, quinzaine de jours, me disait qu'elle était en train d'audiencer pour le printemps prochain des dossiers déposés entre mai et début juillet. Donc on va avoir quasiment pratiquement un an d'audience, alors qu'à Vannes, c'est une juridiction qui fonctionnait très bien. On était sur, alors sans doute privilégié hein, par rapport à certaines autres juridictions, mais on avait un délai de à peu près 4 mois pour obtenir une audience, donc ce qui était tout à fait acceptable et qui permettait aux justiciables d'avoir une décision de justice dans un délai relativement court. Donc c'est difficile aujourd'hui d'expliquer à nos clients de 4 mois, vous allez passer à 1 an et on ne peut rien faire. C'est vraiment une difficulté très importante.
Et justement, alors en lien aussi avec l'allongement des délais, est-ce qu'on peut parler d'une justice, une fois en tout cas qu'elle a lieu, trop rapide. Je veux pour exemple la question des comparutions immédiates qui sont beaucoup évoquées, notamment par les avocats qui exercent au barreau de Paris, avec des comparutions immédiates qui finissent en plein milieu de la nuit, avec des dossiers qui sont traités très rapidement, en 10-15 minutes. Est-ce que ça c'est aussi une conséquence du manque de moyens, Stéphanie Caprin ?
Oui, tout à fait. Et puis je rejoins Madame la Bâtonnière, ça se développe en matière pénale, comme vous venez de l'évoquer avec les comparutions immédiates et autres procédures rapides, mais on le voit aussi en matière familiale. On a, pour pallier les délais normaux qui s'allongent et qui deviennent inacceptables, on multiplie les voies, les procédures dérogatoires rapides, avec le risque d'aller vite et donc de perdre en qualité. C'est ce que dénonçait la tribune que vous avez évoquée dans votre lancement, la tribune des 3000. On se trouve avec le choix à juger vite mais mal, ou juger dans de bonnes conditions mais dans des délais inacceptables. Ça reste encore aujourd'hui notre quotidien. Et ce que Van connaît, c'est malheureusement le quotidien des tribunaux et des cours d'appel partout en France. C'est-à-dire que les collègues qui partent à la retraite ou qui sont mutés ne sont pas forcément remplacés. Et même quand tous les collègues sont en poste, la charge de travail étant tellement importante qu'il suffit que dans un service, il y ait une augmentation du nombre de dossiers qui arrivent. Bah on prend un magistrat d'un autre service pour pouvoir faire face. Et puis donc les délais dans cet autre service rallongent. Enfin, si le but n'est pas forcément de faire pleurer, mais on peut essayer d'objectiver. On peut dire un syndicat, ça râle tout le temps, mais non, on a aussi des chiffres objectifs à l'appui de ce qu'on dit, notamment la Commission européenne pour l'égalité de la justice, la CEPEJ, qui a publié il y a un mois à peu près donc son étude. Tous les deux ans, elle publie des statistiques sur tous les systèmes judiciaires européens, et notamment pour comparer le nombre de décisions rendues, le nombre de personnels, etc. Et en France, par rapport à la moyenne des pays européens similaires, donc on va être comparé avec des pays comme l'Italie, etc., on a deux fois moins de juges et quatre fois moins de procureurs, et également aussi deux fois moins de personnel non juge, c'est-à-dire des greffiers, des assistants, etc. Donc forcément, avec ce personnel nettement inférieur par rapport aux autres pays, on peut dire nos délais sont très longs. On essaye d'y pallier avec des procédures rapides, avec une perte de qualité, oui, sur ces procédures rapides. Et il y a du jugé à 4 heures du matin, alors qu'on sort de 48 heures de garde à vue, alors qu'on a passé 36 heures dans les geôles. On est jugé à 4 heures du matin. Pour la personne qui doit se défendre, c'est pas évident. Pour la victime qui, elle, a été elle-même victime, souvent dans sa chair, parce que c'est quand même souvent des atteintes aux personnes, 2-3 jours avant, qui est peut-être même qui est physiquement, qui sort de l'hôpital, qui a peut-être eu des soins, qui a pas eu le temps de se reposer, etc. Enfin, c'est extrêmement violent aussi, cette justice très rapide qu'on essaye de développer pour pallier ces délais très longs. Alors, on vous dit, vous avez le choix entre être jugé à 4 heures du matin par un magistrat qui aura entendu avant vous 30 personnes, qui siégera depuis 15 heures, qui aura donc moins de patience, faut pas se faire d'illusions, on reste humain, qui sera sans doute moins pédagogue dans sa façon d'appréhender les choses, mais bon, c'est rapide, ou alors vous attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin voilà, vous avez le choix entre deux mots.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous parlez de l'État. L'État est régulièrement, l'État français, condamné. Par exemple, je cite cette condamnation en début 2024. Le tribunal judiciaire de Paris a versé près de 7 millions d'euros d'indemnités à 1000 personnes. 1000 personnes, pourquoi ? Parce qu'elles ont eu des délais jugés trop longs au Conseil de prud'homme de Paris. Peut-être la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que finalement ce constat que les délais sont très longs, ça finalement a des conséquences aussi sur le choix d'une personne ou pas de déposer plainte et donc de rentrer dans ce parcours judiciaire. Peut-être, Maître Dejoire-Roussel, est-ce que vous avez constaté que ça pouvait freiner certaines personnes à se lancer dans un parcours judiciaire ?
Alors, je ne peux pas dire que je l'ai nécessairement constaté. En revanche, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des décisions qui interviennent pour tout ce qui concerne le pan civil, j'entends, ou éventuellement les victimes. Mais les victimes, une fois qu'elles ont déposé plainte, je dirais la machine est en route. Donc malheureusement, les délais, on ne les maîtrise plus. On n'est plus du tout maître de cela à partir du moment où le dépôt de plainte est fait. Pour ce qui concerne les procédures civiles, donc ça peut concerner aussi bien des dossiers en matière d'instruction, de reconstruction en matière d'affaires familiales, en matière de crédit, bien effectivement, c'est aussi aux avocats de pouvoir essayer de proposer des solutions alternatives. Et c'est aussi pour ça que se développe aujourd'hui de plus en plus la médiation, notamment, qui est un processus de règlement des litiges pour pallier quelque peu à ces difficultés de délai et de les contourner. Malheureusement, certains types d'affaires voient ce type de processus qui leur correspondent, alors que d'autres, la médiation ne va pas être adaptée et une décision de justice devra nécessairement intervenir, et parfois dans des délais très courts. Donc, on tente dans ces cas-là, un petit peu comme fait le parquet, à orienter les dossiers en matière pénale vers une comparution immédiate. Nous, on incite nos clients dans ce cas, malheureusement, hein, même si, en tout cas pour ce qui concerne Vannes, on essaye de le faire avec modération, mais on tente les procédures à bref délai ou les procédures de référé pour avoir des décisions un peu plus rapides. Mais il faut bien sélectionner les dossiers, parce que si on engorge de notre côté les juridictions avec des demandes de cette nature, bah nécessairement ce sont d'autres dossiers qui ne peuvent pas être fixés pendant ce temps. Donc ça rallonge également les délais de l'autre côté pour les dossiers un petit peu moins urgents. Donc c'est à nous, avocats, hein, pour ce qui est de notre devoir de conseil, eh bien de bien faire le point avec les clients sur les possibilités qu'ils ont pour trouver des solutions rapides et efficaces en essayant de pallier autant que possible aux délais qui sont relativement longs et auxquels malheureusement nous, on ne peut rien.
Alors justement, oui. Puisque vous parlez de solutions, on va essayer de les aborder dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, on vous propose une petite pause musicale. C'est John Bass, Here's to You.
C'était donc John Bass, Here's to You et tout de suite la seconde partie de l'émission Plaidoirie.
Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Et pour cette seconde partie, on va essayer d'avoir peut-être un regard un peu plus optimiste ou en tout cas d'essayer de trouver des solutions à cette question du manque de moyens dans la justice. Une solution qui a été amenée, c'est la question de peut-être la conciliation ou en tout cas la médiation. Est-ce qu'il existe peut-être d'autres pistes similaires, Stéphanie Caprin, qui pourraient justement permettre de désengorger les tribunaux?
Alors, sur cette question précisément des modes alternatifs de règlement des conflits, je pense que Madame la Bâtonnière sera plus à même que moi à vous les développer. Moi, je vais, on va dire, plaider pour mes collègues, qui est que nous avons besoin avant tout de magistrats, de greffiers en nombre. Alors, il y a des plans de recrutement. Hein, 1500 nouveaux magistrats sont censés arriver d'ici 2027. Ce qui ferait qu'on serait à peu près 10 000. Alors pour arriver aux moyennes européennes dont je vous parlais tout à l'heure, il faudrait qu'on soit 20 000, hein, donc on n'est pas encore arrivé au bout, mais au moins c'est quand même un bon signal, on passerait de 8 500 à 10 000, c'est déjà un premier pas. Des greffiers, non, bien évidemment,
1800,
dans des mêmes...
1800 greffiers,
1500 assistants de justice, enfin, attachés désormais. Voilà, premier point. Deuxième point, l'amélioration des outils technologiques, de l'informatique. On utilise encore des logiciels totalement obsolètes qui n'existaient pas avant qui ont été créés, abandonnés avant votre naissance, je pense, ou avant la naissance des étudiants qui nous écoutent. Si je vous parle de Word Perfect et vous tapez dans Google, enfin voilà, ça a été abandonné dans les années 90. On l'utilise encore dans la justice. Hein. On a des logiciels qui ne sont pas à jour. On a des parlementaires qui sont assez productifs dans la production de lois. Souvent, il y a un fait divers, une loi qui suit, donc des changements. Qui nous laisse pas forcément le temps de mettre en œuvre les choses, de prendre un peu de recul. Là, par exemple, sur les mineurs, hein, on en parle beaucoup, les mineurs délinquants, etc. Il y a une réforme d'ampleur, le code de la justice pénale des mineurs qui est entré en vigueur en 2021 et on veut déjà à nouveau changer les choses. On laisse pas le temps au temps et on considère que c'est changer la loi va changer les choses alors que ce qu'il nous faut, c'est du monde, des juges des enfants, des éducateurs pour suivre les mineurs délinquants, des éducateurs pour prévenir le passage à la délinquance de mineurs qui sont dans des familles qui sont en difficulté, etc. Enfin, c'est tous ces points-là. On arrive en bout de ligne. La justice est en bout de ligne, intervient dans des cas où les autres partenaires sociaux ont échoué, en tout cas n'ont pas réussi à empêcher la délinquance, on va dire. Donc si on arrive en bout de ligne, on peut pas non plus tout réparer d'un coup de baguette magique. Donc moi, je plaide pour avant tout des moyens. Après, il y a des pistes. Déjudiciariser, c'est un des mots qui est un peu à la mode récemment, puisque le garde des Sceaux avant, qui est encore garde des Sceaux, même si malgré la motion de censure, en tout cas pour l'instant, Monsieur Migaud a lancé une mission d'urgence de réflexion sur la déjudiciarisation, c'est-à-dire d'enlever de la compétence de la justice certaines questions de droit. Donc il y a ces réflexions à mener. Et donc il y a aussi les modes alternatifs des règlements des conflits, donc médiation, conciliation, etc. Mais je laisse Madame la Bâtonnière expliquer.
Alors justement, Madame la Bâtonnière, si vous voulez revenir sur la médiation, par exemple, dont vous parliez, est-ce que c'est une solution pour... désengorger certains tribunaux, ou en tout cas faire en sorte que les délais soient restreints, notamment pour vos clients, par exemple.
Bah, déjà, je voudrais quand même rejoindre le propos de Madame le juge d'instruction, parce qu'effectivement, le choix premier de l'avocat, c'est d'assister, de défendre son client devant un juge. Il est important, il est impératif que la justice soit dotée de moyens supplémentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je suis là en tant que bâtonnière du tribunal judiciaire de Vannes, mais pour tout ce qui concerne les ressorts du tribunal judiciaire de la Cour d'appel de Rennes, mais également les autres juridictions, le manque de moyens se fait sentir, le manque de moyens humains, tant pour les magistrats que pour les greffiers, parce qu'il est impératif que la justice soit rendue dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas, à mon sens, je parle de mon point de vue, ce n'est pas, à mon sens, une déjudiciarisation à outrance qui réglera cette difficulté, puisqu'il est impératif tout de même, et il y a un certain nombre de cas dans lesquels les modes alternatifs de règlement des conflits ne permettent pas d'apporter une solution. Donc il faut nécessairement aussi que les moyens humains et financiers, et je la rejoins également lorsqu'elle indique que voilà, les outils informatiques sont obsolètes, on le constate tous les jours, notamment pour les audiences de CRPC, où le logiciel utilisé est totalement désuet et que parfois, sur une matinée d'audience, on perd une heure et demie, deux heures parce qu'il y a un bug informatique et on sait que c'est dû au caractère vieillissant du logiciel. Donc là, je souhaitais quand même réaffirmer cela, c'est la priorité des priorités, c'est mettre en place des moyens humains, sachant que les moyens qui ont été avancés par M. Dupond-Moretti, finalement, on craint qu'ils ne se mettent pas en œuvre. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je prends l'exemple du tribunal judiciaire de Vannes, on nous annonçait deux magistrats supplémentaires par rapport à ceux que nous avions déjà. En tout cas, c'est ainsi qu'on l'entend. Et finalement, au 1er janvier 2025, on va être deux magistrats de moins dans la juridiction. De ce fait-là, les deux magistrats annoncés ne vont pas permettre de passer, pour ce qui concerne le tribunal judiciaire de Vannes, de 16 à 18 magistrats, mais vont permettre de revenir à l'équilibre des 16 magistrats. L'équilibre, je le mesure, parce que c'est l'équilibre par rapport à ce qu'il est actuellement, mais on sera toujours en manque de magistrats. Donc ça, c'était un point quand même que je souhaitais souligner. Ensuite, oui, les modes de règlement alternatifs des conflits ne peuvent pas être négligés dans un certain nombre de contentieux, les contentieux dans lesquels il existe des liens, que ce soit en matière familiale, que ce soit en matière de voisinage, mais également, on le voit de plus en plus, même en matière de copropriété ou de construction, pas pour des dossiers nécessairement très complexes, bien que même les compagnies d'assurance demandent de plus en plus aujourd'hui à leurs avocats correspondants d'avoir suivi une formation en médiation. Donc, il y a une certaine typologie d'affaires qui permettent le recours aux modes amiables, que ce soit la médiation, que ce soit la conciliation, que ce soit également l'ARA, qui est un petit peu différent, puisque l'ARA, donc les audiences d'ARA, sont entrées en vigueur au début d'année 2024, et le procès est déjà en cours. Et c'est un juge chargé de ce type d'audience, un magistrat qui ne siège pas ensuite dans la composition finale qui jugera l'affaire s'il n'y a finalement pas d'accord qui est trouvé dans le cadre des audiences d'ARA. Donc ça, c'est aussi un nouveau mode alternatif, mais qui nécessite cependant la mise en œuvre d'une procédure judiciaire. Donc on a différents types de moyens à notre disposition. Maintenant, ils ne peuvent pas être totalement, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, s'appliquer totalement à tous les types de contentieux. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas totalement déjudiciariser les contentieux, en tout cas, même si, bien évidemment, la médiation notamment est un mode amiable qui va permettre de renouer du dialogue et de permettre in fine de parvenir à une solution amiable. Il sera quand même nécessaire dans un certain nombre de cas d'avoir recours à la justice.
Et alors peut-être, alors je suis désolée, on arrive déjà presque à la fin de l'interview, peut-être une dernière question en quelques mots. Pour vous, quelles sont les perspectives à moyen terme ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? On parlait des chiffres annoncés des magistrats en 2027. Est-ce que ça va se faire et est-ce que vous avez l'impression que les choses, malgré tout, vont dans le bon sens ? Peut-être d'abord vous, Stéphanie Caprin.
Ces annonces ont été très bien reçues, effectivement. C'était il y a à peu près 2 ans, mais on a toujours dit que c'était le bon cap, mais pas le port d'arrivée. C'est une expression que je prends à mon président, qui j'espère m'écoute. C'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction, on sort de 30 ans d'abandon, ça c'est pareil, hein, c'est le garde des Sceaux qui l'avait dit, c'est une première étape, mais ça ne peut être que le début. Il faut qu'ils arrivent effectivement concrètement dans les tribunaux. On met quand même du temps pour recruter et former des magistrats, des greffiers. Donc ça prend un certain temps. Et ensuite, comme l'a dit Madame la Bâtonnière, voilà, 1 ou 2 juges de plus dans chaque tribunal, ça ne va pas diviser par 2 les délais. Donc ce n'est que la première étape. Après, c'est ce qu'on essaye de plaider auprès du Sénat, de l'Assemblée nationale qui ont la main sur le budget à l'heure actuelle, de préserver le budget de la justice pour ça en termes de recrutement. Hein, c'est 1,4% du budget de l'État, la justice, et la justice judiciaire, c'est 35% de ces 1,4%. Le reste, c'est la pénitentiaire, etc. Donc, il faut continuer.
Je suis désolée, Madame la Bâtonnière, vous avez vraiment quelques secondes. Vous, comment vous voyez les choses en quelques mots ?
Nous, nous sommes particulièrement inquiets parce que nous doutons de la mise en œuvre de ce qu'avait été décidé à l'époque de M. Dupond-Moretti. On espère bien évidemment ce manque de moyens dans l'intérêt d'un accès juste, rapide, efficient des justiciables à la justice et pour qu'ils puissent bénéficier de procès dans un délai raisonnable.
Eh bien, merci beaucoup, Madame la Bâtonnière, d'avoir accepté notre invitation. Je le souligne, vous avez fait une tribune donc à retrouver dans le Télégramme. Et merci à vous également, Stéphanie Caprin. Je rappelle, vous êtes juge d'instruction et vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats.
Plaidoirie, l'émission de Police Justice de Radio Campus Paris, un samedi par mois sur le 93.9.